Le marionnettiste. Une nouvelle de Jordi Grosborne. Lue par Serge Cazenave. Demain, je vais avoir 13 ans. Il paraît que c'est le début de l'âge bête, de l'âge ingrat. Personnellement, j'ai le sentiment que c'est l'âge d'or. Quand j'observe les adultes et leur monde, je me demande où commence et où finit la bêtise. Je n'ai pas ce problème avec mes parents. Ce sont deux êtres adorables qui n'ont jamais levé la main sur moi. Ils sont compétents en matière d'éducation et ont la collection complète des œuvres de Françoise Dolto. Je ne suis pas de ces enfants délaissés, livrés à eux-mêmes, et je ne pense pas qu'à 13 ans on puisse avoir des parents plus extraordinaires. Peut-être pour compenser l'absence totale d'amis. À quoi me servirait-il ? Mon imagination fertile me fait observer des chevaliers bardés de métal poursuivre la voiture dans laquelle je suis calfeutré. Je vois tous ces flocons de neige projetés dans les airs sous l'impact des sabots, les épées et masses d'armes sifflent comme un vent d'hiver à côté de la vitre. Je vois mon père aussi. Il m'observe du coin de l'œil dans le rétroviseur, tout heureux de m'offrir cette 13e fête dans notre chalet des Alpes. Car mes parents sont riches, bien assez pour acheter cette maison de bois perdue dans les sapins, loin de tout. Demain soir, le feu crépitera dans la cheminée, éclairant poutres et tapis, et je déballerai mon cadeau sous des regards ébahis et attentifs. C'est toujours comme ça que ça se passe. Pourquoi en serait-il autrement? Parce que 13 est un chiffre spécial et que le bonheur des uns fait le malheur des autres? Il y a 2 jours, on a fait les magasins avec ma mère. En toute innocence, elle m'a conduit pendant des heures dans tous les rayons jouets de la ville. Elle faisait comme si de rien n'était, pensant que je ne comprenais pas le stratagème. Elle avait ce sourire qu'ont ces mères quand elles vont offrir un cadeau à leur gosse. Elle me scrutait, tentant de discerner la moindre expression qui lui permettrait de savoir quel jouet me plaisait le plus. C'était tellement agréable. Moi, je m'amusais et regardais exprès toutes ces choses inabordables ou non éducatives, tous ces trésors auxquels je ne peux pas encore prétendre. Je me délectais du regard gêné de ma mère, qui tentait alors d'échapper au mien, faisant diversion sur la petite voiture télécommandée ou le grand pulse éducatif de l'Atlas du monde. À quoi me servirait cet atlas où mon monde ne figure même pas? La voiture fait une embardée et mon père me rassure d'un clin d'œil dans le rétroviseur. Je n'ai pas eu peur et recolle mon nez à la vitre. Sur le bas-côté, il y a ma voiture, que je conduis de main de maître, je suis invincible et sens son volant sous mes doigts. Elle suit le talus, colle aux bosses, s'envole par-dessus les cimes pour brusquement réapparaître. Mon père fixe mes doigts crispés à la poignée. Mon bolide fait un virage serré et braque sur lui, debout, au milieu du champ. Mon pied appuie sur le plancher et ne se relève qu'au moment où le sang recouvre le pare-brise. Il est du devoir de l'homme de vouloir être libre, quel que soit son âge. Nous prenons un long chemin escarpé et enneigé, le seul qui mène au chalet. Le toit apparaît derrière les sapins aux doigts crochus. Maman me prend par la main. Quand elle ouvre la porte, je vois les banderoles et lampions qu'elle a dû déposer quelques jours auparavant. Il y a des photos aussi, et en premier, celle de mon chien. Mes parents me sourient, attendent une réaction, un geste d'encouragement. Je lève les yeux un instant et vais m'asseoir devant la cheminée, en tailleur. Puis je me balance d'avant en arrière, sans discontinuer, et j'écoute les sanglots de ma mère se frayer un chemin sur les épaules de mon père. Ça fait maintenant 2 ans que je n'ai pas parlé. Les psychologues appellent cela de l'autisme. C'est aussi ce que j'avais appris en regardant les reportages télé. Ils ont eu tant de mal à accepter, surtout ma mère, désespéré d'avoir autant d'argent et de ne rien pouvoir faire. J'étais pourtant promis à un bel avenir. J'étais ce qu'on appelle communément un surdoué. J'avais un QI incroyable pour mon âge, et les deux ne cessaient de progresser. À 10 ans, j'ai eu le brevet des collèges avec mention. J'étais la fierté de mes parents qui pensaient y être pour quelque chose. On m'a disséqué, vu et revu, des scientifiques, psy, profs. Je suis même passé à la télé. Qu'est-ce que ça fait d'être un génie? Tu ne t'ennuies pas trop? Tu as des amis? Des questions débiles que seuls les adultes peuvent poser. Mes parents ont vite compris qu'il me fallait autre chose que cette plèbe d'inculte dans laquelle j'évoluais, et ils ont vite décidé de ce qui était mieux pour moi. C'est bizarre. Je ne me souviens pas qu'ils m'aient demandé mon avis. Je ne devais pas être assez intelligent pour savoir où était mon intérêt. Ils m'ont placé dans une école de surdoués où j'étais entouré de gamins névrosés. C'est dommage, il n'y avait qu'une école dans le pays, et elle était à 500 kilomètres de la maison et de mon chien, dont je regarde la photo sur la cheminée. Mais mes parents m'ont expliqué que l'internat était la seule solution et qu'ils se sacrifiaient pour moi, pour mon avenir. Quelle abnégation, quelle grandeur d'âme, d'autant que je suis leur seul enfant. Je n'ai plus jamais revu Skippy, le chien, ni Elodie, la belle Elodie que j'aimais en secret depuis la fête de mes 6 ans. Ils ont eu beaucoup de mal quand je suis devenu autiste. Tous ces sacrifices, pour rien. Vraiment, la vie leur avait tourné le dos. Ils ont tout fait pour me sortir de mon état. Ils ont même racheté un bébé Skippy. Et l'ont donné 6 mois après, quand ils ont vu que cela ne changeait rien. Sur la cheminée, je regarde la photo, monter, descendre, et j'entends mon beau labrador aboyer de douleur, alors que sa carcasse pourrit dans l'herbe et se décompose sous mes yeux. Maman prépare un gâteau à la cuisine, une tarte aux pommes, mon gâteau préféré selon elle. Papa, lui, cherche du bois dans la forêt. J'entends les coups de hache assassiner les jeunes sapins. Il est certain que j'aime les feux de cheminée. Je le vois tout souriant, car lui adore ça. Je vois la hache cogner, puis ricocher contre l'écorce, et vient lui couper la jambe sous le genou. Son cri heurte les tempes à l'intérieur de mon crâne. Mon père rampe dans la neige rougeoyante, tente d'atteindre la porte du chalet qu'ils avaient acheté pour moi, même s'ils venaient souvent y passer des week-ends en amoureux. Il passe la porte, de la neige sur les épaules, les bras chargés de bois. Il me fait un grand sourire lorsque le feu crépite et me prend dans ses bras pour m'éloigner un peu. Je le repousse en émettant de petits grognements, comme ceux que poussent ces enfants sauvages dans les reportages qu'on passait parfois dans mon école de surdoués. L'odeur de la tarte me rappelle la maison de grand-mère. Elle est morte il y a 2 ans, et c'est depuis là que je suis autiste. Les professionnels avaient conclu au choc émotionnel qui m'avait fait basculer, comme ma grand-mère dans l'escalier. Je me souviens de son visage quand je l'ai poussé. J'entends encore le craquement des vertèbres qui se brisent sur la dernière marche. Il me fallait une excuse pour ne plus parler. J'avais trouvé la meilleure. Cela faisait pas mal d'années que j'avais échafaudé ce plan. De toute façon, j'en avais assez de parler pour ne rien dire. J'ai passé les tests simulés. Personne n'a jamais vraiment voulu voir. Skippy, lui, il m'aurait percé à jour tout de suite. La soirée se passe sans encombre et on me met au lit comme tous les jours à 10 heures. J'attends patiemment que mes parents s'endorment. Je descends doucement dans le salon où je prends mon cadeau encore emballé et le remonte dans la chambre pour le cacher. Je l'ouvrirai demain soir, puis Je descends au garage. Une demi-heure après, dans mon lit, comme toutes les nuits, je me permets de sourire. Je récite l'alphabet pendant 10 minutes, articulant chaque lettre à voix basse pour ne pas réveiller mes parents. C'est comme ça que j'entretiens mes cordes vocales et les muscles de mon visage. Dans mon école de surdoués, on avait appris beaucoup de choses sur la biologie humaine. Le lendemain, j'attends que maman vienne me lever, me laver, me préparer mon petit déjeuner, me cajoler. Je passe la journée à basculer mon buste d'avant en arrière, comme tous les jours depuis 2 ans. Mais ça vaut la peine. Ils sont très riches, et mon école de surdoués m'a initié aux bienfaits des lois de la succession. Il me faut juste être patient. Un jeu d'enfant. L'horloge sonne 5 fois, et mes parents s'empressent à la cuisine pour installer les 13 bougies. Ils font toujours tout ensemble, ne se séparent jamais. Tout ça parce qu'un psy leur avait sorti une théorie selon laquelle, en ma présence, ils devaient toujours se montrer unis, ne faire qu'un, le symbole de la communication du deux, selon ce professeur, aux honoraires exorbitants. Cela devait entraîner une réaction contre le un, la solitude. À tel point que mon inconscient aurait dû lui-même briser mon autisme pour que j'aille vers l'autre. C'est fou ce qu'on peut raconter comme bêtise quand on est adulte. Pour plus de sûreté, je fais semblant de dormir profondément. Comme ça, mes parents n'hésiteront pas à me laisser. En plus, je sais que ma mère ne laisserait pas mon père partir seul avec la tempête qu'il y a dehors. De toute façon, je ne bougeais jamais de plus de 2 mètres. On me posait dans un coin et on me récupérait. Mon père s'énerve contre ma mère et lui demande ce qu'elle a fait du cadeau. Elle lui soutient qu'elle l'a pris. Il crie. Je n'étais pas censé entendre. Dit qu'il ne le trouve pas, qu'elle ne pense pas à la douleur de son fils s'il n'a pas son cadeau. Elle pleure. Elle sort de la cuisine, sans doute pour voir ce que je fais. Il dit à ma mère que je dormais et qu'il retourne à la maison. Nous n'habitons pas très loin du chalet. À peine 1 heure de route, et ma mère insiste pour aller avec lui, prétextant qu'à deux, cela irait plus vite pour le trouver, qu'en plus, avec ce temps, elle n'était pas tranquille. Il accepte. Après tout, comme il dit, je n'ai pas bougé depuis 2 ans, alors pourquoi ce soir? J'attends que le bruit du moteur ne soit plus audible pour me lever. J'imagine mon père énervé conduire un peu vite sur cette route escarpée et enneigée. Le premier virage, il le passera comme d'habitude, sans freiner, puis il accélérera dans le petit bout de ligne droite. Il freinera au second virage, très sec. Au troisième, il appuiera encore sur le frein, la voiture ralentira et d'un coup, plus rien. Il écrasera la pédale de frein en criant. Ça va de plus en plus vite, à tombeau ouvert. Le virage suivant, mon père met les mains sur son visage, ma mère se baisse en hurlant. La voiture fait des tonneaux dans un assourdissant déchirement de tôle. Je suis à leur côté. Ils sont là, mes parents, le visage ensanglanté, les yeux grands ouverts. Je ne perds pas de temps et descends dans le garage effacer les traces du liquide de frein qui s'est écoulé durant la nuit. On fait aussi de la mécanique dans mon école de surdoués. Puis je remonte dans ma chambre, prends mon cadeau et le pose sur la table du salon, lumière allumée, j'attends. Quelqu'un bricole la serrure. Un policier entre. « Bonjour, mon garçon, » fait-il doucement, en regardant mon ombre se balancer sur les murs. « Tes parents ont eu un accident, » ajoute-t-il en posant une grande main sur mon épaule. Il est terriblement gêné. Je me délecte de son regard. Enfin, c'est le moment. Je me jette dans ses bras. « Ils sont morts, hein? Ils sont morts !» je crie. Ah, ce plaisir de hurler à gorge déployée. Il me calme, me serre contre lui. Je m'arrête d'un coup, et sanglote. Au moment de passer la porte, je lâche sa main et cours prendre le cadeau sur la table. L'homme me regarde déballer le paquet, une larme au coin de l'œil. « C'est mon anniversaire, 13 ans, je veux voir mon cadeau. » J'ouvre la boîte, une belle marionnette. Je souris intérieurement. Ça tombe bien. J'adore tirer les ficelles.